bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale, une bande originale de lundi de Pâques sans Nagui, qui malheureusement n'a pas été sacrifié hier. Non, il est en vacances. J'ai bien peur qu'il revienne un de ces jours. Bref, une BO sans Nagui, mais avec Marina Rollman.
Bonjour.
Éric Sigrist.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Tom Villard.
Bonjour.
Dans la dernière demi-heure, temps Guy Pastureau pour Maltraiter l'info. Et bien sûr, Leïla Kadour Bounadi.
Bonjour à tous, merci Daniel Morin. Notre invité aujourd'hui dans la bande originale, c'est Jean Tellet. Bonjour Jean.
Et bonjour.
On a notre petit rendez-vous comme ça régulièrement. On est ravis de vous avoir autour de la table.
Je suis bien content de venir, c'est drôlement agréable.
Un nouveau roman, Jean Tellet, Gare à loup, aux éditions Julliard. Combien de romans par an? Comment ça se passe, votre rythme? C'est un par an?
Normalement, c'est un tous les ans et demi, des fois deux ans. Mais là, l'idée du livre est arrivée en pleine promo du précédent. Et pouf, du coup, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, j'ai enchaîné.
Vous avez enchaîné. Ça veut dire que peut-être que le rythme, tout d'un coup, s'accroît avec le temps. Est-ce qu'on écrit plus vite?
Mais oui, puis comme il m'en reste de moins en moins à vivre.
Il faut se dépêcher.
De plus en plus de bouquins.
Et voilà.
Dépêchez-vous, Jean Tellet, parce qu'on adore vos romans. C'est à chaque fois un rendez-vous. On va expliquer un petit peu l'histoire de Gare à loup, surtout vous donner envie de lire ce conte fantastique, parfois loufoque, qui prête aussi à réfléchir. Mais avant ça, on va passer à la première séquence de l'émission, c'est l'interro, tous ensemble pour voir si mes petits copains, vous avez bien révisé. Première question. Pour se mettre à écrire un nouveau roman, de quoi Jean a-t-il besoin ?
D'alcool.
Ça pourrait.
Un ordinateur ?
Non.
De soleil.
Ça pourrait aussi, mais
c'est... De jours de libre.
C'est plus concret.
Ah, c'est...
Un nouveau carnet.
Oui.
Un crayon.
Qu'avez-vous dit ?
Un nouveau carnet ?
Non.
Un nouveau stylo ?
Non plus.
Un bloc.
Une nouvelle femme.
Juste un nouveau, sur l'ordinateur, un nouveau dossier, une nouvelle.
C'est pas
nouvelle,
loin.
Un fichier, un
nouveau. Okay, USB,
et qu'est-ce qu'il
un
faut pour
dur.
Un fichier ?
Il faut un titre, il faut un nom.
Il faut absolument. Bravo Marina, je sais pas comment c'est good. Voilà, c'est ça. Il faut avoir trouvé le titre. Mais ça va un peu plus loin.
Il faut que j'ai aussi la couverture toute faite, mais toute faite au détail et pouvoir l'avoir devant moi. Tout le temps que je ne peux pas écrire un livre si je ne sais pas comment il s'appelle et si je ne sais pas à quoi il ressemble. Tandis que comme il est affiché devant moi, je sais le livre que je suis en train d'écrire. Alors qu'il y a beaucoup d'écrivains, c'est une fois qu'ils ont terminé le livre avec les éditeurs, on dit au fait comment on va l'appeler et on va mettre quoi en couverture, tandis que moi, tout est fait.
Et donc c'est toujours un titre définitif.
Ouais.
Toujours.
Et la couverture aussi, définitive.
J'ai vu pareil avec les enfants, moi.
T'as entendu les photos?
J'ai besoin de les voir d'abord avant de me dire en quelque chose.
Alors là, rapidement, la couverture de Gare à loup, c'est une photo qui pourrait être une photo qu'on aurait trouvée dans la maison, une classe de, je sais pas, de 5e, 6e, avec un cadre jaune. C'est une photo scolaire,
mais
en fait.
Mais oui, mais c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est une vraie photo scolaire d'une petite gamine qui avait 11-12 ans à l'époque, qui maintenant a 19 ans.
Qui est de la famille ?
Non, je ne la connaissais pas du tout.
On peut faire des vannes. Alors.
Et pour la remercier, je lui offre son permis de conduire. Mais je lui ai demandé si elle pouvait ne pas l'avoir à la 12e fois, ça m'arrangerait.
Parce qu'il n'y a pas de limite, là.
J'espère qu'elle est douée. Mais pourquoi cette petite fille ?
Parce que j'avais envie que ça soit une petite... Pourquoi celle-là, précisément ? J'avais prévu faire un casting de photos de classe de petites gamines, et puis j'ai rencontré une dame à qui je racontais ce que je voulais faire comme couverture. Et puis elle me demandait comment s'appellera votre livre. Je disais Gare à loup. Elle dit, oh, c'est marrant, ma fille s'appelle Lou. Et le lendemain, elle m'a apporté cette photo-là. J'ai tout de suite dit, c'est elle. J'en ai même pas cherché d'autres.
Voilà. C'est génial. Et est-ce que la quatrième de couverture aussi, vous l'avez sous les yeux quand vous commencez à écrire? Là, il faut la décrire. Autant la couverture du livre, c'est une photo standard scolaire avec ce fond un peu gris qu'on a tous eu sur nos photos de classe. La quatrième de couverture...
C'est l'exorciste.
C'est l'exorciste. C'est la bouche à la place des yeux et l'œil à la place de la bouche.
C'est
du Picasso.
Et ça plaisait à personne chez mon éditeur qui était contre et tout. Et puis je disais, c'est comme ça. Et ceci dit, c'est vrai qu'il...
C'est toujours la même ou c'est quelqu'un d'autre que vous avez rencontré
qui est très bizarre? Non, c'est la même. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui râlent après ça. Et j'ai même appris qu'il y a des gens qui achètent le livre chez le libraire, mais qui veulent pas partir avec la jaquette du livre. Le libraire, il a plein de jaquettes à cause de ça.
Bon, ben ça va, parce qu'avec la bonne couverture de Julliard aussi, ça marche aussi. On continue. Le sport préféré de Jean.
Le golf?
Non.
Pétanque.
Non plus.
Le tennis, le foot, le basket,
le crossfit,
la planche à voile,
les échecs.
Non.
La sieste.
Le croquet, le curling.
Est-ce que c'est individuel ou collectif?
C'est individuel.
La sieste synchronisée. La sieste.
Le javelot.
En fait, je vais accorder la sieste à Marina déjà, qui avait dit Marina, parce qu'en fait, votre sport préféré.
Eh ben, je le sais pas.
C'est aucun, vous avez dit
aucun.
Oui.
Ben voilà, c'est pour ça que je savais pas.
Surtout pas de sport.
Non, bien sûr que non. Non, moi, je comprenais qu'on court et qu'on fasse des trucs comme ça quand il fallait cavaler après des bestioles avec les hommes préhistoriques pour
manger. Ouais.
Mais maintenant, on peut aller très tranquillement à pied chez le boucher. Pourquoi.
Non, mais ça a été jamais pour vous dans votre vie, le sport.
Non, bien sûr que non. Mais non, pourquoi faire pour puer la sueur et tout. Non.
Mais vous marchez, vous avez besoin de vous dépenser un peu physiquement.
Mais pourquoi pas du tout de me dépenser, non. Et puis j'ai pas besoin de me lever tôt non plus, enfin non.
Ah ouais.
Ah non, tranquille.
Et vous avez réussi votre vie, quoi.
Mais oui, exactement.
Carrément.
Et vous aimez voir les autres suer?
Oui, de temps en temps, mais je suis pas très fan.
Surtout quand il me porte.
Des fois, je regarde des matchs de foot, mais quand
l'équipe
quand
de France
sur des chaînes
mondial.
Où il n'y a pas à payer, ce qui fait que j'en regarde pas beaucoup. Quoi.
La Coupe du Monde, vous avez suivi?
Ouais.
Ouais, parce que là, ça dépasse même le foot.
Ça, j'ai suivi. Ça,
vous avez suivi. On poursuit. Quel genre d'histoire racontait la mère de Jean à Jean?
Histoire horrible. Épouvante.
Ouais, c'est pas loin. Plus précis, est-ce qu'on peut affiner?
Suspense.
Non. Zombie.
Non.
Thriller.
De fantômes.
Non plus.
Slasher.
C'est quoi?
C'est quand on découpe des gens.
Ah ouais, non.
De cannibales.
Non, plus simple, plus proche de nous.
Des contes.
Ah, de tueurs en série.
La guerre. Ouais, des faits divers, absolument. Point partagé avec Daniel. Elle vous racontait des faits divers.
Mais oui, elle me racontait que des histoires horribles. Et je crois que c'est pour ça que j'en ai raconté après tellement. Je me souviens, moi, je devais avoir 5-6 ans. Elle m'avait raconté qu'il y avait un type qu'elle avait appris qu'il y avait un motard qui voulait doubler sur une route un camion qui transportait des plaques de tôle, qu'il y avait une plaque qui avait glissé à ce moment-là et ça y avait coupé la tête.
Ah, comme Jane Mansfield.
Voilà. Et elle me faisait faire des cauchemars. Et puis, du coup, j'en fais des livres maintenant.
Est-ce que vous racontez, vous aussi, des histoires terrible aux enfants qui vous entourent?
Mais à un moment, mon fils, je lui ai raconté une petite histoire et on me conseillait d'arrêter. Ouais.
S'il nous écoute, on l'embrasse, Guy Georges.
En même temps, ça nourrit des imaginaires, ça fait des romanciers, donc peut-être pas non plus inutile de raconter, peut-être pas que des faits divers, mais des histoires qui affolent.
Enfin là, ça a bien tourné, c'est pour ça.
Ouais, là, ça a bien marché. C'est vrai, on a le cas positif. Une petite dernière et ensuite on s'intéresse de plus près à Garalou. Ce nouveau roman, Jean écrit tous les jours de 10h à 19h. Il peut donc rester des journées entières sans
se lever,
manger,
sans faire pipi,
sans boire,
parler à des gens.
Bravo.
Exactement.
Sans parler.
C'est du luxe.
Oui. Ah oui, c'est vraiment bien.
Vous avez vraiment réussi votre vie.
Je suis tellement jaloux.
La virée de Daniel Morin.
J'écris, je ne prends pas un jour de vacances, pas un jour de week-end, tout le temps que le livre n'est pas terminé, parce que j'ai l'impression de rentrer dans une transe et que si je coupe le fil, de ne plus retrouver le livre. Mais une fois que le livre est terminé, là, pendant 6 mois, je ne peux plus rien écrire.
Ah oui, c'est vrai.
Mais je travaille, et quand c'est des gros livres comme Le Monté, Espan, Villon, tout ça, c'est pendant 2 ans et je me dis que j'accepterai jamais qu'un patron me traite comme moi je fais. Un patron me dirait, écoute, ça va être simple, tu vas bosser pendant 2 ans, tu n'auras pas un jour de repos. Je dirais, il est complètement dingue, lui. Et puis c'est ce que je m'impose.
Combien de temps pour Garalou?
Ah, celui-là, alors très vite, ça a été fait en 4 mois. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était le livre qui me dictait ce que je devais écrire. Ce qui fait que quand j'avais mon éditeur au téléphone, je disais, tu me payes comme écrivain et en fait, je suis dactylo. Quand je descendais de l'appartement pour aller dans mon bureau pour écrire, je me demandais pas ce que j'allais écrire. Je me disais, et alors qu'est-ce qui va lui arriver? Mais comme si j'étais le premier lecteur du livre. C'est un sentiment assez étrange et c'est agréable.
Alors Garalou, Lou, l'héroïne de ce roman, de ce conte fantastique, à 12 ans, elle découvre qu'elle est dotée d'un pouvoir magique, à savoir voir se concrétiser le mal qu'elle souhaite à ceux qui la contrarient, qui lui lui déplaise. On vit dans, comme pour tous les contes, on a un imaginaire un peu développé. On est dans une ville pas forcément identifiée, dans une période pas forcément identifiée. Tous les ingrédients du conte sont là, dans une tour, la tour dite de l'incendie au 276e étage. Un étage qui vous permet de vous situer aussi dans votre statut social. Et Lou est une petite fille avec sa mère qui vit au niveau des indigents. Donc ça, c'est le point de départ de ce conte fantastique. Et j'ai envie de vous dire, Jean Tellet, merci la SNCF.
Mais oui, parce que c'est grâce à un contrôle l'heure que j'ai trouvé. Moi, j'avais écrit il y a une douzaine d'années le magasin des suicides qui racontait l'histoire d'un petit garçon qui apportait le bonheur dans un magasin des suicides. Donc, il avait cette singularité-là. Et depuis longtemps, j'avais envie de faire le pendant féminin. Et je me disais, j'aimerais bien raconter l'histoire d'une petite gamine qui aurait une spécialité et tout. Et je cherchais, je trouvais pas. Alors, j'enchaînais les romans historiques et tout. Et pendant que je faisais la promo du roman précédent, Entrée dans la danse, j'étais un jour dans une librairie, je sais même plus dans quelle ville, et à un moment, le libraire vient me voir, il me dit, Jean, là, votre train est prévu à 18h30, donc il faudrait partir bientôt, mais regardez, il y a encore plein de gens qui attendent des dédicaces, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, moi, il faut que je rentre à Paris, parce que demain, je repars dans une autre ville et tout. Il me dit, oui, mais il y a un autre train à 20h. Un autre train à 20h, je vais prendre celui-là. J'arrive dans le train, je m'assois en début de compartiment, contrôleur arrive, il me demande mon billet. Je lui montre le billet, pas de problème et tout. Puis il va demander les billets des passagers suivants. Et tout d'un coup, je pense à mon voyage du lendemain, j'avais une question à lui poser. Et je sais plus non plus laquelle. Je le rappelle, je fais, monsieur, s'il vous plaît, je peux vous poser une question.
Ne jamais faire ça. Voilà. Jamais rappeler un contrôleur. Enfin, je sais pas ce qui vous arrive.
Et je lui pose ma question, il me regarde, il me dit, je peux voir votre billet? Je dis, mais je viens de vous le faire voir. Il me dit, faites-le voir encore. Bon, je ressors le billet, il regarde, il dit, vous n'êtes pas dans le bon train. Vous auriez dû prendre le train 18h30. Je fais, effectivement. Et alors, il dit, je vais vous mettre une amende. Je dis, mais vous êtes vraiment gonflé. Je vous fais voir le billet, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle pour un renseignement auquel j'ai toujours pas la réponse. Et vous allez me coller une amende? Il me fait, oui. J'ai dit, si, je ne veux pas payer. Il me dit, c'est pas compliqué, j'appelle la police, la prochaine gare, ils viennent vous chercher.
Oula.
Bon, je sors la carte, je paye. Et là, je ne sais pas
ce
qu'il
lâche,
prend.
Quand même.
Je ne sais pas ce qu'il prend. Au moment où il va pour partir, je lui dis, monsieur, regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vous souhaite un très grand malheur pour très bientôt. Et si jamais ça se réalise, au moment où ça arrive, rappelez-vous de moi. Et bizarrement, j'ai senti que ça avait vraiment fait quelque chose.
Ça s'appelle une malédiction.
C'est comme l'œil, c'est ça.
Ça, c'est votre côté humaniste. Ça. Voilà.
Et sur quatre générations, en plus, vous avez dit ça. C'est ça qui est terrible.
Vous avez craché par terre.
Il m'a dit, c'est gentil. Et il est reparti, mais au lieu de partir dans le sens où il allait pour prendre les billets des autres passagers, il est parti dans l'autre sens, je n'ai plus jamais revu.
Il est tombé du train.
Il est peut-être mort. Les gens autour de moi ont commencé à rigoler. Tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça la spécialité qu'elle va avoir la gamine. Et puis, il va falloir faire super gaffe à elle. Et puis tout, mais arrivée l'expression gare au loup, je me suis dit, elle va s'appeler Lou et tout. Et puis, j'ai eu plein d'idées comme ça. Elle habitera dans une tour de l'incendie. Ça sera au bord de l'avenue du Bonheur. En face, il y aura le bar des sanglots et tout. Je suis arrivé à Paris, j'avais la moitié du livre.
Était sympa ce contrôleur.
Ouais, 150 balles,
Me dis que je vais peut-être retomber sur lui j'espère qu'il va pas. J'espère qu'il va pas me réclamer des droits d'auteur cette fois-ci.
Vous auriez pu le lui dédicacer, mettre en exergue ce contrôleur zélé de la SNCF.
Il est en train de devenir le contrôleur le plus célèbre de France.
Et vous écrivez souvent dans les trains, je crois.
Les idées m'arrivent souvent dans les trains. Ouais. Le roman précédent, Entrée dans la danse, était dans le fameux train du cholestérol pour aller au festival. La foire du livre de Brive, où un type où tout le monde picole dans ça, et un type arrive avec les yeux tout rouges et me dit Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518? Je le regarde, je me dis, c'est le mec le plus bourré du train. Et puis en fait, c'était une histoire vraie. Donc j'ai intérêt à continuer à prendre le train.
En tout cas, Lou a fait un peu comme vous. Elle jette un sort. Le premier dans ce conte, c'est à un de ses camarades de classe, parce qu'elle est la risée de ses camarades au collège à cause de sa dentition. Elle a des dents de lapin.
Elle a des bagues.
Ouais. Et elle a des bagues, un chemin de fer, comme on disait un peu à l'époque. Elle lui souhaite de tomber et ça se produit.
Et voilà. Et puis il y a une copine à côté d'elle qui va pour la dénoncer en disant « C'est Dent de Lapin qui a dit que ». Puis elle se retourne vers elle, elle fait « Toi ». Et puis c'est parti. Et maintenant, quiconque va lui casser les ovaires à Lou, ça va prendre cher. Ouais.
Alors on a cette dimension aussi hyper drôle parce qu'elle peut se venger en transformant les roues d'une Ferrari en roue de vélo.
Ouais.
Ou faire jaillir une sorte de bouse d'éléphante géante sur des voleurs. Donc là, on a la dimension aussi qui est un conte qui pourrait s'adresser à des jeunes gens.
Mais oui, mais c'est ce que j'avais envie, parce que pour le magasin des suicides, ce que j'aimais bien, moi, quand je croise des gens dans la rue qui me reconnaissent, qui me parlent de mes livres, ça me fait évidemment plaisir. Mais sur le magasin des suicides, des fois, j'entendais des petits pas qui cavalaient après moi, et de petites gamines ou petits mecs qui me disaient « Monsieur, il y a ma mère qui est là-bas, elle m'a dit que c'est vous qui avez écrit le magasin des suicides, c'est génial et tout. » Et c'est un bonheur de vivre ça, et j'avais envie d'essayer de revivre ça avec Garalou. Ouais.
Et pourquoi l'avoir placé, cette petite fille, dans cette tour aussi haut perché avec sa mère, Roberte?
Ouais, mais j'avais envie que sa mère soit pauvre et tout. Et moi, en province, je parle beaucoup aux gens et je rencontre pas mal de mères où les couples se sont séparés, qui vivent toutes seules avec deux, trois mômes et tout, qui ont un tout petit salaire, ouais, et qui n'y arrivent pas à vivre, et qui me racontent que souvent elles disent à leurs enfants non, j'ai pas faim, je suis ballonnée et tout, parce qu'elles peuvent pas se payer à manger, elles s'habillent qu'avec des vêtements de récup et tout, et je trouve que ça fait des personnages très très touchants, tout comme on sait que, ouais, de plus en plus de femmes SDF ou bien les femmes qui arrivent à la retraite parce qu'elles ont dû accoucher, il leur manque des années et tout, vivent dans une misère totale, et c'est des gens, moi, qui me touchent. Et j'avais envie que cette mère soit comme ça, Robert.
Vous parlez beaucoup de femmes rencontrées, de,
ouais,
femmes qui peinent à boucler les fins de mois.
Elles en bavent de plus en plus. Hein. Puis déjà, par principe, elles sont moins payées que les hommes. Alors ça, sans vouloir même pas être gentil, quoi que ce soit, je n'arrive pas à comprendre ça.
Moi, c'est ce jour-là où j'aimerais bien avoir le pouvoir de Lou, justement.
Eh ben voilà.
Là, j'aimerais bien pouvoir souhaiter du mal dans
cette circonstance. Par exemple, il paraît que vous êtes beaucoup moins bien payé que Daniel.
Que non, Daniel, non. Que Nagui, oui, mais
ah
que
bon.
Daniel, non.
Bon.
je suis volontaire. Il faut pas
déconner quand même. Hein. Je suis pas n'importe qui.
Vous avez vu, c'est bien, elle y croit. C'est ça la force de la femme.
Elle en est sûre, surtout.
C'est ça la force.
On a un pouvoir aussi en place dans ce roman. On a un président.
Formidable.
Un président qui vit dans un endroit particulier.
Oui, Hannibal Chanchou, il s'appelle. Et il habite, son palais présidentiel se trouve à l'intérieur d'une boule à neige. Une grande boule à neige et tout. Et les voitures officielles qui arrivent pour des rencontres présidentielles et tout ça, en roulant, font s'envoler des paillettes blanches qui sont au sol. Et puis donc, ça fait vraiment un effet de boule à neige et tout.
Un président hypochondriaque.
Oui.
Loin d'en couper ouais, du peuple, c'est
mais,
aussi ça.
Mais voilà. Et très souvent, on dit des hommes politiques, quoi, de toute façon, ils ne savent pas comment on vit. Mm-hmm. Et tout. Ils vivent dans leur bulle.
Dans leur bulle, ouais.
Et bien là, pour le coup, il est vraiment dans sa bulle.
Alors, c'est un pays où on paye en euro-yens.
Ouais.
Alors, je me suis demandé, parce qu'il y a pas mal, entre le nom du président, quelques autres indices, la Chine semble assez proche de ce pays imaginaire que vous avez conçu.
Oui, mais exactement. Et puis, le pays s'appelle la Chine-Inde. C'est la Chine et l'Inde qui sont, ouais, rassemblés et qui donc ont le pouvoir total sur le monde. J'avais envie de raconter ça, un truc qui risque de nous arriver et tout. Puis parler aussi de la pollution. C'est un pays où on apprend qu'il y a du sable qui approche, ouais, tout le temps. On ne sait pas d'où. On sait qu'il n'y a plus de source. Que le pays où vit Lou achète à un autre pays qui s'appelle l'archipel des mille cavernes, achète des réserves d'air pur et tout. Voilà, raconter un peu un monde comme ça risque d'arriver, quoi.
Ouais, et ces autorités-là, si on parle du pouvoir, c'est parce qu'elles vont s'intéresser très rapidement à Lou. Le premier qui va repérer le pouvoir de Lou, c'est Monsieur Sodade.
Oui, c'est un gardien de la paix qui est tout le temps au bar des sanglots. Et au bar des sanglots, on ne vend que... C'est un bar pour désespérés, on vend des inconsolables, des peines...
Un chagrin noir avec,
voilà,
un voile de vague à l'âme.
Exactement.
On peut commander ça.
La serveuse, elle les joue tatouée de larmes. Elle arrête les passants sur les trottoirs en disant « Deux verres d'Aragon, j'ai des sanglots ». en voulez-vous ? Et ça pourrait exister comme ça, un bar pour désespérer.
Et c'est très très poétique, et ce monsieur Sodate, forcément, dans les contes aussi, les noms ont de l'importance, ouais. Donc nécessairement, c'est pas étonnant de le retrouver au bar des sanglots. Il repère que Lou est capable de susciter des catastrophes.
C'est un agent de proximité, il est toujours au même endroit, et c'est ouais. pour ça il finit par la repérer.
Voilà. Ouais. Et finalement, les autorités vont enlever Lou, tout voilà. simplement parce qu'elle va devenir une arme incontournable.
Cette gamine, c'est une arme. Tous les chefs d'État des autres pays qui nous emmerdent et tout, mais on va lui dire, voilà, il faudrait que tu fasses quelque chose. Mais le problème avec Lou, c'est qu'on ne peut pas lui dire le mal qu'il faut qu'elle souhaite. Il faut que ça vienne d'elle. Et comme c'est une gamine de 12 ans, elle a que des souhaits à la con. Ce qui fait que les trois chefs de guerre qui doivent s'occuper d'elle nuit et jour dans un endroit secret et tout deviennent dingues avec elle. Il y a des malentendus. À un moment, elle a des boutons d'acné, on lui parle d'un pays qui emmerde le pays de Lou et tout. Et puis elle regarde ses boutons d'acné. Et puis en parlant de ses boutons d'acné, elle dit « je voudrais qu'ils disparaissent tous ». Et c'est tous les habitants du pays en question qui disparaissent.
Oui, on ne sait plus du tout où ils sont passés. Et voilà. Du jour au lendemain, il n'y en a plus un seul.
Et voilà. Ils ne sont même pas morts, ils ont disparu.
Lui, par contre, il est bien là. Comment allez-vous, Tom ?
Alors, oui, super. Pas mal l'accueil. Ouais.
Alors, Jean Tellet, c'est toujours un succès. Mais oui. Pourquoi est-ce que Gare à l'eau va être un triomphe?
Alors déjà, on va faire un petit résumé du livre. Alors oui. Jean, le prenait pas mal, c'est un gros résumé. C'est l'histoire d'un enfant qui a le pouvoir de faire du mal. Donc, un enfant. Non, il y a des enfants qui sont très bien, mais j'ai plus souvent vu des enfants péter des trucs dans une maison que des enfants nous dire « Écoute, je t'ai fixé les étagères de l'entrée, j'ai ramené la cheminée, j'ai huilé la porte du garage qui couine depuis 5 ans. » Non mais c'est vrai. Donc le livre, Lou est une ado qui a le pouvoir de faire arriver le pire à qui elle veut. Son pouvoir est repéré par les militaires, on vient de le dire, qui l'enferme pour en faire une arme. Vous imaginez une ado qui a des pouvoirs? Bon, allez. Déjà. Un ado tout court, ça a des pouvoirs. L'odeur d'une chambre d'ado, beaucoup plus efficace, c'est un gaz lacrymo. Le samedi, les CRS, ils balancent des paniers de linge sale d'ado sur les gilets jaunes. Il y a un manifestant qui perd un œil en essayant de ramasser un caleçon, ça serait beaucoup plus efficace. Mais c'est vrai, la voix d'un ado, même les plus puissants crypteurs de communication, valent rien à côté de la voix d'une voix qui mue. Tu commences une conversation avec un ado, ça déraille. Tu passes de la voix de Garou à la voix de Mika en 2 secondes. Il y a un moment, t'as l'impression de discuter avec un chat qui s'est coincé la queue dans la porte. Impossible de tracer la conversation. Physiquement aussi, l'ado, il passe incognito, il change d'apparence tout le temps. Le lundi, t'as un enfant, le mardi, on dirait qu'il a été à la foire fouille, il a un gros nez, une moustache pourrie. C'est très bien fait, hein. Parce qu'on parle toujours des grands pouvoirs, des super pouvoirs, l'invisibilité, comme l'homme invisible ou Benoît Hamon, le vol, comme Superman ou Patrick Balkany, la téléportation, comme Diablo ou Xavier Dupont de Ligonnès, gérer le temps, comme Doctor Strange ou Michel Drucker. Mais la réalité, c'est qu'on pourrait avoir des super pouvoirs, mais tout pourri, t'imagines? Je suis Enterhitman, et mon pouvoir est donner la gastro. Ouais. Ça peut être utile pour chouette. Écouter une réunion de parents-prof, mais de là à gagner une guerre avec ça, je suis placomane. J'ai le pouvoir de voir à travers les murs, mais uniquement si c'est du placo de moins de 7 cm d'épaisseur. Au pire, je suis Daniel Mormann. J'écris 25 chroniques par semaine. Je suis aussi solide que sur la politique que sur les tyriens du quotidien, mais ma spécialité, c'est les blagues sur Nagui. Non, c'est vrai, c'est ça. Puis désolé d'être un peu cartésien, mais t'es un super-héros. Tu sauves les gens, c'est super. Mais tu bouffes comment? Superman, soi-disant, il bosse au Daily Planet, mais je me demande bien comment il fait pour pas se faire virer. Il se barre toutes les 2 secondes pour sauver le monde. Mais t'es super-héros, comment tu fais pour manger et payer ton loyer? C'est bien beau de sauver des gens des incendies, arrêter des attaques extraterrestres, mais qui te paye? Je le vois mal, moi, Superman, dans un épisode. Bon, alors, je vous ai sauvé d'une bande de braqueurs, c'est 500 balles. Ce qu'on va faire, c'est que je vous envoie une facture pro forma, chèque, espèce ou carte bleue. Ben non, ça n'existe pas. Puis si tu prends un pseudo, c'est pour être peinard, mais ta vie est dans ta vie privée, mais comment tu cotises pour ta retraite? Bon, bref. Comme dit l'adage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est pas le Dalai Lama, c'est Spider-Man. Allez, bonne journée.
Merci Tom Villa.
Bravo Tom. La bande originale. Oui, c'est vrai, ça, on s'est pas posé la question comment les super-héros sont rétribués. Parce que là, Lou, il y a une compensation dans le livre pour elle.
Si, ah merde, on a attaqué le spécial.
On sait comment.
Mais parce qu'en fait, il écrit super vite Superman, ce qui fait qu'il est, en tant que journaliste, il est beaucoup plus productif que la majeure partie des journalistes du Daily Planet. C'est pour ça qu'il, c'est comme ça qu'il gagne sa vie.
Ouais, d'accord.
Parce qu'en plus, il fait des reportages sur les trucs qu'il a fait.
Ouais. Wow. Mais tous les autres super-héros, ça marche pour
celui-ci. C'est comme
celui-ci.
Une super Laetitia Gaillet, quoi.
Steve Rogers, Captain America, il est dessinateur. Donc il vit dans un petit appartement à Brooklyn, il a pas grand chose, mais il était dessinateur industriel.
Ouais, d'accord, mais il a pas grand chose quoi, c'est pas le
on va pas faire toute la liste.
Revenons à Gare à Lou, ce nouveau roman de Jean Tellet aux éditions Julliard. Là, Lou, il y a une compensation parce qu'elle est retirée à sa mère pour devenir cette arme incroyable au service de son pays. La mère est aussi prise en charge.
Oui, exactement, c'est cette mère pauvre en compensation, l'État l'aide. vase. Et comme avant, elle était potière, elle fait des vases en forme d'arbres, qu'elle appelle des vases arbres et tout.
Il est dessiné dans le livre.
Ouais,
le
ouais, ouais.
Et
ça risque d'arriver. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, ça. un tronc de chêne avec les départs des branches, et tout ça évidé, puis on glisse
Les branches sont creuses pour mettre des fleurs à l'intérieur.
Et ça va sans doute exister, les vases arbres.
Avec obligation pour tous les services publics et administratifs d'acheter exclusivement
exactement,
chez elle.
Exactement. Et comme ça, elle va mieux. Mais ben, parce que cette mère, elle râle, parce qu'un jour, un type arrive chez elle en disant, vous étiez en train de préparer le goûter pour votre fille, et ben c'est plus la peine, on l'a kidnappé. Et la mère, elle est complètement dingue. Elle dit, mais vous rendez compte, j'ai même pas pu lui dire au revoir, vous. Et je sais même pas quand je vais la retrouver et tout. Et le représentant de l'État, il dit, bah oui, madame, mais entre votre chagrin et la raison d'État, et puis voilà.
La mère, une grande artiste, une autre grande artiste, Marina Rollman.
Alors ça y est les amis, j'ai fini pour la saison de jouer mon spectacle à Paris, et donc avant de reprendre en septembre au Théâtre de l'Œuvre, merci Daniel, je fais un peu plus de dates de tournée. Et jouer un peu partout en France, ça m'a permis de réaliser que j'étais à ce stade intéressant de carrière, les limbes de la célébrité. Les gens qui me reconnaissent, ils savent jamais s'ils ont vu un de mes sketchs ou si j'ai vomi par la fenêtre à la crémaillère de leur cousine. Ils me regardent, ils sont là, les deux. L'autre jour j'étais dans un taxi et ils me demandent ce que je fais, donc je dis humoriste, et ils me disent humoriste, mais vous êtes pas... Et puis là, il a cherché ses mots 2 secondes. Il avait la même expression que... Je ne sais pas s'il y a des gens dans votre famille qui se sont remariés un peu tard avec des célibataires. Genre moi, ma tante, elle s'est remariée avec un type qui n'avait jamais eu d'enfant. Et tu sens, il ne comprenait pas. Pour lui, entre 3 et 20 ans, c'est la même chose. Tu sais, t'es vraiment perdu, comme s'il ne parlait pas la langue. Tu sais, t'as 16 ans, il t'offre un pistolet à colle et un bon pour de l'essence. Avec une phrase genre, bah, comme ta tante m'a dit que t'aimais bien le rock'n'roll. T'es même pas fâché, mais t'es entre déception et incompréhension. Et ben voilà, il avait la même tête, le chauffeur de taxi. Il me dit, humoriste, mais vous êtes pas connu. La réponse est dans la question. Hein. Quand tu dis 2 fois un truc, ça devient une affirmation. Mais il est mort. Bah, disons, il n'est pas vivant. Hein. Mais pour moi, ça me va de ne pas être connu, parce que j'ai besoin des gens connus pour aller bien. Ça me rassure de les regarder vivre, d'imaginer que tout est parfait. Si je deviens un gens connu, qu'est-ce que je vais faire? Je les laisse, eux, réussir leur vie. Ça me déresponsabilise. Je rêve sur eux, ce qui fait que pendant la mienne de vie, je peux chiller. Moi, quand je ne vais pas bien, par exemple, je regarde Friends. Tout le monde voit ce que c'est, cette série.
Ouais.
Et bah, Jennifer Aniston, elle ne peut pas regarder Friends. C'est pour ça que les stars finissent parfois dans la drogue, l'alcool, se suicident. Tu te dis, mais comment c'est possible? Ils ont tout. Bah oui, mais ils ont pas Friends. Les gens connus, moi, ça me détend, ceux qui vont bien. Parce que je trouve que c'est beaucoup de pression de réussir sa vie. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus chouette de regarder d'autres gens le faire. Tu vois, si t'es une star, tu dois réussir ta vie parce que t'es payé pour ça, pour nous faire rêver. Nous, on peut vivre par procuration. Par exemple, moi, je vois une photo de Victoria et David Beckham. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Ça me rassure. Voilà, je crois en l'amour. Alors, c'est sûr, ils sont déjà engueulés pour savoir qui avait déréglé les sièges de la voiture et tout. Mais moi, je sais pas. Alors que moi, si je vois une photo de mon mari et moi, je me dis, ah, ça, c'est les vacances où je me suis fait piquer par un temps et j'ai oublié les clés dans la voiture de location. C'est nul de voir les coulisses. Mais célébrité, c'est un monde fictif où tout va bien. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui aiment la presse people mais glauque. Tu sais, les trucs avec en couverture, genre sa terrible maladie, il l'a trompé avec une poutre, sa mère rate une sauce. Si le but c'est de voir des vies ratées, on n'a pas besoin d'acheter des magazines. On est d'accord, c'est super facile de rater sa vie. Bah, c'est vrai, parfois même t'essayes de pas la rater, bah, tu la rates quand même, c'est vraiment facile. La plupart d'entre nous, ça va nous tomber dessus sans qu'on ait besoin de rien faire.
Ouais.
Contrairement par exemple à un prix Nobel de chimie. Un prix Nobel de chimie, c'est pas que là, t'es là toute ta vie à te dire non mais vraiment moi je m'approche pas d'un Beck-Benson, c'est hors de question que je fasse une solution azotée, et puis il rien fait, et puis tout à coup t'as un appel d'un numéro inconnu, tu dis oui bonjour c'est le comité Nobel, ah putain chérie j'ai inventé la microscopie fluorescence super résolue, c'est chier bordel. Clairement il faut vouloir avoir un prix Nobel de chimie, alors que rater sa vie tu peux le faire sans effort, ce qui fait que je comprends pas les gens qui se privent de la possibilité de rêver avec les célébrités. Tu vois, il y a des gens qui lisent des articles sur la cellulite des stars, mais bien on va faire un tour au mois de février dans une cabine des sièges H&M, je te montre que sur ce plan-là, elle a rien à nous envier, Jennifer Lawrence. Hein. Je veux dire qu'on s'intéresse pas aux stars, je comprends. Mais là, tu vas te renseigner sur la vie de gens que tu connais pas, que tu vas jamais rencontrer de ta vie, et tu veux savoir s'ils vont pas bien. Bon, tant qu'à faire, autant rester et se parler entre gens pas connus, quoi.
Merci Marina Rollman.
Sur France Inter. Garalou, une ado dotée de pouvoirs magiques, un pays dirigé par un président hypochondriaque qui vit dans une boule à neige. Voilà pour brosser un petit peu la situation de départ de ce conte fantastique que l'on vous doit, Jean Tellet, avec des personnages aussi qui rappellent des préoccupations plus contemporaines. On a parlé de ce bar des sanglots où les clients sont tous à un degré plus ou moins avancé du désespoir.
Voilà, ouais, c'est ça.
Et Pourquoi ce bar-là ?
J'en sais rien du tout.
Il y a la rue du Bonheur qui est pas loin,
mais... ça m'est venu dans le train, après l'affaire du contrôleur. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça serait marrant, ça. Ouais. Et oui, je trouve que ça serait un truc poétique. Et en plus, les consommations sont servies avec un petit mouchoir pour qu'on puisse renifler dedans, s'essuyer les yeux. Et
puis entre dépressifs, on peut se remonter le moral. Exactement.
Des peines infinies, j'ai dit un chagrin noir tout à l'heure avec un voile de vague à l'âme. Quand vous commandez une terrasse de café, vous pensez à ça quand vous observez autour de vous les autres clients tout seuls ?
Oui, ben oui, puis je me dis que ça va sans doute m'arriver. Moi, quand je travaillais à l'assiette anglaise, évidemment, à chaque fois que j'arrivais dans un resto, les serveurs s'amusaient à m'apporter une assiette anglaise en disant, de toute façon, je vous donne même pas la carte. Donc là, si ça se trouve, maintenant, on va me dire, tenez, voilà un chagrin noir avec un voile de vague à l'âme.
Ça fait penser un peu à Boris Vian.
Oui,
petit clin d'œil à Boris Vian quand même tout au long de ce conte.
L'écume des jours, pour moi, ça a été un livre, mais incroyable. C'est même pas un livre, c'est une porte. Quand j'ai lu ça à 15 ans, je dis, mais donc on peut faire ça. Ouais. Donc on peut être libre comme ça. Et c'est comme s'il me disait, vas-y. Et que c'est agréable, ça.
Oui, c'est réussi.
Le pouvoir de nuisance par une petite fille. Que j'aimerais de cette petite fille et pouvoir faire du mal autour
déjà, en tant qu'adulte, tu te débrouilles pas mal.
C'est vrai, je me défends. Olivier et Marguerite dans la bande originale, ce bateau. Ce bateau, Olivier Marguerich, dans la bande originale sur France Inter. Nous sommes avec l'excellent Jean Tellet pour son nouveau roman, Gare à Loup. Jean, nous allons revenir sur votre vie, la bande originale de votre vie, en quelques dates.
Oh, et
sur
toute
la vie,
Jean
On commence en 1953.
Mais ouais, DJ Daniel.
C'est parti.
On commence en 1953.
Je crois que c'est parti.
Qu'on s'est rencontrés, toi et moi, et depuis tous deux, on se balade. On ne prend jamais le vent debout. C'est lui qui pousse et on s'en fout. Mon camarade.
Léo Ferret.
En avril,
mon camarade.
Pourquoi Léo Ferret?
Parole de Cosimon, je crois. Oui, exactement.
Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite?
Moi, je suis né dans une famille communiste et quand j'étais enfant, c'était un mot que j'adorais, camarade. Je trouvais que c'était beau. Je comprenais même pas comment des gens pouvaient pas être communistes. Je trouvais que c'était l'idéal humain et en grandissant, j'ai changé d'avis. Mais
avec le contrôleur, surtout.
Voilà. mais c'est un mot que je trouve très beau, camarade. Et cette chanson de Cosimon est très, très, très,
c'est celui
très
qui partage la même chambre, le camarade.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, comme copain qui partage le pain. Ouais.
Et vous avez grandi à Arcueil, Jean Tellet. Et tout à l'heure, on évoquait le clin d'œil à Boris Vian et aussi à Aragon, et c'est pas par hasard.
Oui, parce que mon père était menuisier à l'Humanité, le journal et tout, où il y avait
qu'on imprimait sur du bois à l'époque, c'était lourd à livrer.
Il y avait d'autres journaux, dont un magazine d'intellectuels qui était tenu par Aragon et
les Lettres françaises.
Voilà. Et Aragon écrivait toujours sur la même chaise et il appelait régulièrement mon père en disant la chaise se déboîte, il faudrait la réparer et tout. Et mon père dit, ben oui, mais quand vous partirez de
Levez-vous.
Mon bureau...
Mais il y avait une contrainte.
Je le ferai. Ouais. Il dit, non, mais je veux que personne rentre dans mon bureau quand je suis pas là. Il dit, ben oui, mais comment je fais? Ben, pendant que j'écris. Et mon père était sous la chaise d'Aragon, en train de rafistoler la chaise. Et puis je lui disais, Aragon, quand il me racontait ça, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il écrivait? Des poèmes, des articles? Il me dit, ben je sais pas. Je lui dis, mais tu regardais pas? Est-ce que c'était des lignes courtes avec à chaque fois une majuscule?
Ouais.
Et il me disait, mais j'ai pas regardé et tout. Et moi, ça me plaît bien d'être le fils du menuisier qui réparait la chaise d'Aragon pendant qu'il écrivait. Parce que pour moi, Aragon, c'est aussi beau que Verlaine.
Et vous avez été à l'école avec Jean-Paul Gaultier aussi.
Ouais,
ça fait un peu liste de célébrités, mais...
Oui. Et sans doute, dès l'école maternelle, on n'arrive pas à se souvenir, mais toute l'école primaire et tout. Et là, dans son spectacle qu'il a fait, The Fashion Freak Show,
ouais.
il me fait faire une petite intervention filmée où je joue notre directeur d'école, Monsieur Tapp. Et puis, on était deux marmots un petit peu différents des autres à l'école primaire. Jules Ferry à Arcueil, et encore maintenant,
pourquoi
on est resté proche. Parce qu'on ne s'intéressait pas au foot, parce que je ne sais pas quoi, on était un peu rêveurs et tout ça. Et puis on avait un truc. Et lui, il était vraiment fabriqué à 7 ans, mais c'était fait. Moi, j'ai assisté à son premier défilé parce que, au lieu d'écouter les cours, il dessinait des bonnes femmes à poil avec des grosses plumes aux fesses et tout ça. Et l'institutrice, Madame Mouminou, lui avait accroché son dessin dans le dos. Et pour l'humilier, il lui avait dit, faut que tu passeras le long du couloir, comme ça. Et en fait, ça a été son premier défilé mode. Et moi, j'ai assisté à ça. Et ce qui est joli, c'est qu'on s'est connus donc tout petit, et puis que maintenant, à nos âges, on continue à se voir, à déjeuner ensemble et tout. Voilà.
Les deux vocations, alors déjà lui avec les plumes, et vous qui ne vouliez pas courir, pas de football.
Voilà. Ouais.
On change de date et on reste dans le temps. 1978. Painted Black, les Rolling Stones.
Et en 78, Jean, après avoir fait l'école d'art de la rue Madame, on va y revenir parce que c'est grâce à un homme, on parlait des professeurs, grâce à Pierre Pilot, et on va reparler de lui. Vous entrez en tout cas à l'Écho des Savanes.
Et ouais.
Premier job.
Alors oui, et je trouve ça super. C'était un magazine de bande dessinée formidable.
Qui était formidable.
Formidable et tout. Et puis arrivait tout un style de dessin différent, comme moi je faisais, comme un groupe qui s'appelait Bazooka faisait aussi et tout. Il y avait quelque chose de rock. Et puis et la bande son de cette époque-là, c'était les Stones pour moi. Et notamment cette chanson que je trouve formidable. L'intro est vachement bien. Et voilà, basculer dans un autre monde, j'ai adoré ça. Ouais.
Alors, il faut dire que vous mettiez en image des reportages sur des bargeaux, vous avez dit, à l'Écho des Savanes, ce qui est devenu un bouquin, Jean de France et d'ailleurs.
Oui, oui. Et on s'est changé des dingues avec la bande de Striptease, ouais. Où à un moment, ils avaient envie que je travaille avec eux, mais bon, j'avais pas envie. Et alors, ils me refilaient des dingues belges, je leur refilais des Français, un mec qui construisait une soucoupe volante pour emmener sa mère mourir sur une étoile, des conneries comme ça.
Ils changent de dingue.
Voilà.
Ouais. Mais avec tendresse, vous dites ça.
Oui, bien sûr.
Toujours cette fibre communiste, l'entraide.
Voilà. Mais c'est bien, ces gens qui sont à côté de la réalité, qui marchent dans la marge de la vie, quoi, bien sûr.
En tout cas, le dessin, c'est vraiment aussi votre première formation. Et revenons à Pierre Pilot.
Ouais, parce que j'étais un très mauvais élève au collège. En troisième, j'étais dernier de la classe. Et puis, comme on était dirigé en fonction de nos notes, moi, étant le dernier, on m'avait collé en mécanique auto. Mais tu dis, putain, mécanique auto. Moi, je m'en fous complètement des moteurs. Je me suis dit, toute ma vie, je vais me prendre de l'huile de vidange sur la gueule. Quand même, quel destin et tout. Et puis, un jour, j'arrive à l'école, on commençait par le cours de dessin et le prof viens voir, fait ben dis donc, toi qui d'habitude a l'air joyeux, là t'en fais une tronche aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, oh putain, hier ils m'ont foutu en mécanique auto. Il dit, mais non, t'es plutôt bon en dessin, tu pourrais rentrer dans une école de dessin, je savais même pas que ça existait. Il dit, c'est très difficile pour y entrer. Il y a 500 candidats, ils prennent que les 50 premiers et tout, mais si tu travailles beaucoup, si tu prends des cours du soir, tu peux peut-être tenter le coup. J'ai dit, mes parents sont pauvres, laissez tomber, je vais faire mécanique auto. Il dit, bah non, bah moi je vais t'en donner des cours. Et tes parents n'auront rien à payer. Et il m'a fait bosser tous les jours. Et dessine ta main, et dessine le vase, et dessine le bouquet de fleurs et tout. J'ai passé ce concours, je l'ai eu. Et là, je me suis dit, ce mec, toute ma vie, je vais le gonfler en lui disant, si un jour j'avais pas rencontré un type comme vous, ma vie aurait été différente. Et malheureusement, 2 ans après, il s'est suicidé. Et encore maintenant... Et j'en suis inconsolable et j'aurais tellement voulu passer mon temps à remercier. Et ce qui est marrant, c'est moi qui ai absolument détesté l'école, avec Jean-Paul et Gaultier aussi. Avec Gaultier, on est resté tout le
temps
proche.
Vous dites Gaultier.
Gaultier, ouais, c'est qui avec un L. Et on est resté tout le temps proche de Madame Tapp, qui était l'institutrice qui nous a appris à lire et écrire. Mais jusqu'à sa mort, elle est morte il y a 3-4 ans, à genre 92 ans et tout. Je lui ai envoyé tous mes livres. À chaque fois, elle m'engueulait parce qu'il y avait des gros mots et tout. Et elle me disait, ouais, elle me dit, tu comprends, je voudrais pas que les gens se disent, ah, c'est comme ça qu'elle lui a appris.
Elle est trop mignonne.
Et moi, un personnage de roman.
Je la ramenais pas, j'avais 7 ans, je disais, pardon, Madame Tapp, je ferai attention la prochaine fois et tout. Et puis, on la suivait avec Gaultier quand elle était dans sa maison de retraite en dessous de Toulouse. Puis elle aimait bien frimer, de temps en temps, il l'appelait. Et puis, elle raccrochait en disant aux infirmières, oui, c'est Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier.
C'est trop mignon.
Elle était toute fière de nous deux.
Ça aurait pu être en effet un personnage de roman, cette Madame Tapp. Ça nous conduit à la date suivante, 98, avec Darling.
Le grand Rogue Voisin.
Darling, pour forcément faire référence à votre roman, Darling, un livre inspiré de la vie de votre cousine.
Ouais.
Vous racontez l'histoire dans les articles de presse, c'est à mourir de rire, vous êtes à Canal.
Mais oui, à l'époque où il y était aussi Albert, ça faisait un moment que je me disais, si je trouve une bonne idée de roman, j'arrête la télé. Et un matin, à 11h30, j'avais les pieds sur le bureau et tout, on m'appelle de la réception en bas en disant, il y a une grosse dame, ça doit être une fermière. qui veut absolument te voir et elle veut pas partir d'ici avant t'avoir raconté sa vie pour que t'en écrives un livre. Alors qu'est-ce que tu fais? Soit tu descends, soit on appelle la sécu parce qu'elle fout la honte dans le hall de canal. Une grosse fermière qui fout la honte dans le hall de canal, ça donne envie. Ouais. Je descends, je passe le portique et je vois effectivement une grosse femme à qui il manque des dents avec un panier, avec des pommes, des trucs comme ça, qui arrive vers moi, qui me prend dans les bras en me gueulant « Jeannot !» Moi je me dis « Mais c'est qui? C'est dingue !» Elle dit « Tu te rappelles pas de moi ?» Et puis je comprends que c'était...
Que est-ce que c'est une ex?
Que c'est, la, que c'est la fille d'un des...
Ah, l'esprit canal.
D'un des frères de ma mère. Et sentant le bordel qui est fou dans l'eau, comme il allait être midi, j'ai dit « Bah viens, on va aller déjeuner. » Et puis elle commence à me raconter sa vie. Et à la moitié du repas, ma décision est prise, j'arrête la télé, je vais écrire sa vie. Et chercher des titres, itinéraire d'une fermière, tout ça. Et elle me dit « Ah non, mais moi je l'ai, le titre c'est Darling. » Et comme je dis souvent, quand on voit ma cousine, le premier mot qui vous arrive aux lèvres, c'est pas Darling. Et j'ai dit « Mais pourquoi Darling ?» Et c'est parce que son chanteur préféré était Rock Voisine, et comme nom de pseudo de Cibis, parce qu'elle faisait de la Cibis pour essayer d'accrocher des routiers, elle avait choisi Darling.
Voilà. Non, mais c'est génial. Comme Marina.
Et Groland a été inventé avant moi.
Et alors justement, il y avait, je crois, Decaune et Gildas en tout cas, qui m'avait dit, quand il m'avait vu avec elle dans le hall, qu'il croyait que c'était un nouveau personnage et des chiens.
Mais là, elle a quelque chose d'assez touchant et assez proche même de Lou, finalement, parce que quand vous racontez un petit peu sa vie, elle a déclenché la panique dans une foire aux bestiaux. La première fois qu'elle est allée à la messe,
le curé
est mort d'une crise cardiaque.
C'est vrai.
Et vous n'y croyez pas au départ. Vous vérifiez tout.
Alors, je ne sais pas si elle souhaitait comme Lou tous ses malheurs, mais en tout cas, à chaque fois qu'elle passe quelque part, il y a un malheur.
Ah oui, non, puis en plus, c'est une femme intéressante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle arrive à l'embranchement d'un chemin, s'il y a la bonne voie à la mauvaise, elle prend que la mauvaise. Il y a des gens comme ça, ce qui fait que ça fait une vie, mais une vie démente.
L'état de grâce, quoi. Bah
justement, cet état de grâce, on va en parler avec Emmanuel Jafflin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Emmanuel,
bonjour,
vous êtes philosophe.
Camarade.
Vous êtes camarade, voilà, on voit l'ambiance. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous avez publié Éloge de la gentillesse, petit éloge de la gentillesse, éloge de la gentillesse en entreprise.
Stop.
Voilà. On vous a fait venir, bien sûr, pour vous parler de ce personnage de Lou. Lou qui génère, qui concrétise le mal qu'elle souhaite aux personnes qui l'environnent, en tout cas à ceux qui ont des comportements déplaisants. Est-ce qu'on a tous, comme Lou, cette tentation du mal, de jeter des malédictions, comme notre cher Gentelet dans un train?
Suspense. En fait, je voudrais juste faire un petit point d'étymologie. Gentelet, ça rime avec le latin gentilis, gentiles, gentilitas. Vous êtes un gentil, avant que je parle de Lou.
Ouais.
Mais ouais.
Vous êtes un nouveau gentilhomme. Alors moi, je dirais que Lou, elle n'est pas méchante du tout. C'est une femme de justice. C'est-à-dire qu'elle veut réparer le mal par le mal. C'est ça, la justice. Donc, elle est ni gentille ni méchante. Elle est punitive. Et donc, elle produit un certain nombre d'actes pour rétablir l'ordre. Et en fait, dans une société où le droit est un peu mou, bon, on a besoin de Zorro, on a besoin de Spider-Girl. Et je trouve que Lou, c'est typiquement ça. Elle n'est pas du tout méchante. Il faut dire les choses clairement. Le méchant, c'est celui qui fait choir quelqu'un pour son propre intérêt et qui va choir lui-même. Et Lou, pas du tout. Lou, elle veut récupérer une erreur en répondant au négatif par le négatif.
Mais ça, c'est pas...
Et doublement négatif, c'est positif.
C'est pas les méchants. Oui, on n'est pas forcément obligé de répondre au mal par le mal, pour le coup, parce que c'est une forme de petite vengeance.
Parce qu'on est dans une société un peu molle, mais je pense que la justice, c'est vraiment la punition.
Bien parlé.
Et quand... Et merci, chef. Et quand la justice ne marche pas, il y a des super-héros qui apparaissent. Moi, je lisais Strange quand j'étais jeune. Maintenant, c'est Spider-Girl, mais son père, c'était Spider-Man, et il réparait ce que la police était incapable de réparer, encore aujourd'hui. Donc je trouve que ce conte, qui n'est pas un roman, il est vraiment d'actu, parce qu'il nous dit à tous, nous ne devons pas du tout être méchants. En fait, c'est simple, être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Et punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas, c'est-à-dire le faire revenir dans l'ordre. Et le propre de Lou, c'est ça, c'est quelqu'un qui l'emmerde et qui lui dit qu'elle a des sales dents, elle le fait tomber dans l'escalier, quelque part, il va réagir à son mauvais comportement. Il y a rien de méchant dans le livre, sauf le moment où elle fait disparaître carrément un peuple.
Un peuple.
Oui, mais c'est sûr.
C'est une erreur. C'est une erreur.
On est d'accord.
Donc elle n'est pas méchante. Comme ça, vous, une erreur.
Ouais.
Un peuple qui disparaît, c'est une erreur.
Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une adolescente.
À quiproquo.
Oui. 12 ans.
12 ans. Donc on peut se dire aussi, est-ce que les enfants ou les adolescents ont un rapport particulier au mal, à souhaiter beaucoup de mal?
Non, mais je vous l'ai dit, le problème... Alors ça, c'est une autre question, hein, le problème de l'enfant, c'est que maintenant, il est devenu roi. C'est l'enfant roi. Donc du coup, les parents, les profs s'écrasent devant eux et ils ont l'impression d'une toute puissance qu'ils vont perdre quand ils vont devenir adultes et qu'ils vont devoir faire un boulot.
Est-ce que c'était une façon, Jean Tellet, de matérialiser la toute puissance de l'enfant que de doter Lou de super pouvoirs?
Oui, c'est ça. Et puis, mais j'avais envie que ça, ce livre soit justement une réflexion sur est-ce que c'est si bien que ça de souhaiter du mal aux gens. Et d'ailleurs, sans évidemment raconter la fin du livre...
on voit progressivement, un effet aussi sur le moral, que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'on est méchant, Emmanuel ? C'est une question aussi qu'on peut se poser.
C'est une vraie question génétique, mais je pense que dans une société où on pense que le succès individuel doit s'affirmer, on va avoir tendance à écraser les autres et à leur marcher dessus. Moi, je vous le redis, être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Donc là, on est dans l'empathie et on est dans l'altruisme. Quand on est dans la méchanceté, c'est qu'on est dans le narcissisme, l'égocentrisme, l'hyper-individualisme. On gagne rien à être méchant à moyen terme. Les gens en payent la note à un moment donné. Et donc, ce livre-là montre que c'est plutôt les généraux qui, à un moment donné, se pose des questions. Elle est pas gentille dès le départ, elle est justicière. Et c'est ce que je trouve très positif dans ce livre, dont je voudrais dire que c'est, vous l'avez tous dit, mais je le répète, c'est un conte, et il est très poétique. Vous avez parlé de Boris Vian, c'est effectivement très pertinent. Moi, je me suis arrêté sur des phrases qui m'ont donné à penser. Ça, c'est le charme du poète, qui revient un petit peu à la mode, alors qu'il a été abattu dans les années 80. Et je trouve que la poésie nous donne à aimer, nous donne à penser, nous donne à vivre.
Quand vous parlez de cette gentillesse, forcément vous faites référence à l'autre. Est-ce qu'on peut pas être simplement gentil sans vouloir rendre service à quelqu'un ? Aujourd'hui, par exemple, on nous parle beaucoup de ce qui relève de la bienveillance. C'est quand même une thématique qu'on développe beaucoup aussi sur cette antenne, la bienveillance par rapport aux autres, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi aussi. Est-ce que quelle nuance vous faites et qu'est-ce que vous pensez de ce règne de la bienveillance ?
Je distingue le gentil du gentillet. Le gentillet, c'est celui qui répond à toutes les demandes qu'on lui fait. Donc, il est mou. Le gentil, c'est celui qui sait dire non. Maintenant, la différence entre la gentillesse et l'empathie. Mais l'empathie, c'est la gentillesse et la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est une empathie verticale. C'est-à-dire que moi, comme parent, je peux être gentil avec mes filles. Moi, comme prof, je peux être gentil avec mes élèves. En prison, le gardien de prison peut être gentil avec les détenus. Ça marche pas dans l'autre sens. Alors que la gentillesse, elle est horizontale. Elle marche aussi bien, de celui qui est en dessous à celui qui est au-dessus, et réciproquement. Donc elle est plus globale, la gentillesse, et donc moins à la mode.
La bienveillance, la gentillesse.
C'est pour voir si vous suivez la gentillesse. Elle est moins verticale, et du coup, elle est plus post-moderne, et elle n'est pas encore entrée totalement les mœurs, et on la confond tout de suite avec gentillesse.
Donc qu'est-ce que je retiens de ça, moi, en gros, entre la bienveillance et la gentillesse ? Non, mais j'essaie de comprendre.
Ah ben, la bienveillance, c'est une empathie verticale. D'accord. Si vous êtes chef, c'est-à-dire vous, en tant que chef de la radio, vous me posez des questions, je m'inclus, et si vous êtes bienveillante, j'y réponds. La gentillesse, elle est horizontale, c'est-à-dire qu'un détenu peut être gentil avec un gardien, pas dans la bienveillance. D'accord. Ça marche que dans un sens.
D'accord, on fait une sorte
J'ai été très pédago, là.
Ouais, mais c'est exactement ce que je pense, et souvent je dis ça, moi, que l'empathie, c'est horizontal, c'est comme la gentillesse, mais que la bienveillance, ça vient de quelqu'un soi-disant au-dessus vis-à-vis de quelqu'un soi-disant au-dessus.
Alors c'est ça, mais moi je chipote plus l'empathie, c'est le genre qui fait qu'on a du pathos pour quelqu'un, on veut l'aider. La bienveillance fait que celui qui est au-dessus veut aider celui qui est en dessous. Ouais. La gentillesse, ça marche dans les deux sens. Ouais. Celui qui est en dessous peut aider celui qui est au-dessus. Ouais.
Dans ce contexte de gentillesse, de bienveillance, d'empathie, finalement, est-ce que c'est pas une forme de transgression que de susciter la douleur ou d'essayer de faire mal? J'ai la sensation qu'on s'accorde tous à dire qu'il faut être positif, qu'il faut être bienveillant, à l'écoute.
C'est une excellente question. Vous n'avez pas cité mon livre, et vous avez bien fait, l'apologie de la punition. Mais en réalité, je vois bien que dans notre monde où l'État et le droit ont emporté tous les pouvoirs de punir, la morale ne peut plus punir, l'individu ne peut plus punir. Donc du coup, on valorise la gentillesse parce qu'elle est dans l'empathie postmoderne où tout le monde doit être solidaire des autres. Mais la punition, c'est le privilège de l'État, et du coup, l'individu ne peut plus punir autrui. Il doit s'écraser. Le père s'écrase devant l'enfant, le prof devant l'élève. À la radio, je sais pas.
Ça revient à dire que si on avait le pouvoir de Lou, Nagui est pas on là, serait donc, tous très c'est... très tentés de l'utiliser.
Elle a tout compris, c'est justement parce que le droit de punir qui que ce soit que Lou et que les super-héros apparaissent, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, l'État peut pas établir la justice.
Et ça, c'est une vision qui était sous-jacente à l'écriture du roman, Jean Tellet.
Oui, j'avais envie de ça dès le départ, ouais, qu'elle se retrouve avec ce truc-là qu'elle n'a même pas désiré.
Ouais.
Et au bout d'un moment, elle se sent un peu embarrassée par ce pouvoir. D'ailleurs, elle pose la question à un des chefs de guerre qui est censé s'occuper d'elle tout le temps, qui va faire quelque chose de bien. Elle dit, mais vous savez faire du bien, vous, aux gens? Et ça fait comment?
Ouais.
Et tout d'un coup, elle se dit... Comment ça fait? Puis elle se demande, elle dit mais elle les engueule aussi à un moment en disant mais vous m'obligez à souhaiter du mal pour des gens qui ont peut-être de bonnes raisons, peut-être des excuses et j'avais envie que ça soit.
Mais de toute façon, le loup, à part effacer tout un peuple sur un quiproquo. Autrement, ses punitions sont plutôt enfantines. Elle prend le contre-pied pour ne pas avoir à être trop méchante.
Mais exactement, ouais. Puis avec des idées de 12 ans. Puis si elle bouffe un ragoût de saucisse d'antilope qui
n'est
pas bien,
bien
passé, et ben elle désire que les pyramides se retrouvent sur la pointe, et elle se retrouve sur la pointe. Et donc les chefs de guerre disent, mais on t'a rien demandé à propos des pyramides.
C'est une arme de guerre pas complètement contrôlée.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Emmanuel Jafflin d'avoir
merci.
Vous avec
tous.
Nous, donc je rappelle
éloge
de la
Jean
gentillesse.
Merci.
Bon, et ben alors surtout Jean Tellet. Alors merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et si vous voulez en savoir plus sur la gentillesse, et ben voilà, cherchez les bouquins d'Emmanuel Jafflin. Vous pouvez y aller, Emmanuel.
Merci, Emmanuel. Tanguy Pastureau, on vous retrouve après les infos. Mais j'aimerais savoir, quelle est cette délicieuse odeur un peu bizarre qui émane de vous?
Eh bien, c'est celle du Queen Yamagne, Daniel. Ce gâteau breton bourré de beurre qui, au bout de seulement 10 parts, vous fait sans chirurgie l'arrière-train de Kim Kardashian. Figurez-vous qu'une entreprise des Côtes d'Armor a créé un gel douche au Queen Yamagne pour être breton des pieds à la tête. Ouh. Et on a même le pubis qui sent le beurre. Si on tombe sur une gourmande, c'est top.
On a hâte d'écouter la suite. Ah ouais, on est ensemble jusqu'à midi et demi dans la bande originale. Notre invité est Jean Tellet pour Gare à l'eau.
Miam.
Retour de l'info à 13h. La bande originale, deuxième partie toujours, sans la guillemets, avec Marina Rollman.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Pastureau, on vous retrouve dans quelques instants. Et à ma gauche, Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour à tous. Salut Daniel Morin, notre invité, Jean Tellet dans la bande originale. Gare à vous, lecteur, Gare à loup, le nouveau roman de Jean Tellet est arrivé tout frais aux éditions Julliard. Attention à ne pas regarder cette petite fille de travers. Elle pourrait créer des catastrophes autour de vous. Une bouse d'éléphante géante pourrait vous ensevelir. Vous pourriez aussi tomber, perdre vos dents, disparaître, que sais-je. La panoplie est assez vaste dans ce conte fantastique de cette petite fille, loup, qui a ses pouvoirs incroyables, qui va être récupérée par les autorités pour devenir une arme de guerre, une arme massive, on va dire ça comme ça, qui va faire des dégâts pas forcément chirurgicaux, parce que quand elle y va, elle ne se loupe pas. Et on n'a pas parlé, constituante aussi importante du conte, Jean Tellet, c'est forcément un héros, des adjuvants, des opposants, du merveilleux. Et justement, il y a du merveilleux, il y a une sorte de bestiole étrange, une chimère mi-poisson, mi-bovin.
Qui existe vraiment. Souvent, les gens croient que c'est un truc que j'ai inventé et tout. Un animal incroyable qui s'appelle le Periophthalmus barbarus. Et j'ai découvert ça chez un libraire, encore dans un truc de province. Après, les dédicaces, il m'invite chez lui à prendre l'apéro, prend un whisky, puis j'étais face à un aquarium et tout, puis après un deuxième whisky. Puis au troisième, je vois le poisson qui sort de l'eau.
Ouais, c'est au troisième whisky, genre.
Et qui marche sur le rocher. Et je me dis, il faut absolument que j'arrête le whisky maintenant. Et je dis, mais je vois un truc là. Il me dit, oui, mais c'est un animal spécial qui symbolise l'évolution de la vie, du passage de l'eau à la terre. Et j'avais envie qu'il y ait cet animal dans ce roman, parce que c'est comme Lou. Lou, elle quitte le monde de l'enfance, elle va passer au monde adulte. Et entre les deux, elle passe par un moment bizarre qu'on appelle l'adolescence.
Animal est là pour marquer cette transition. Il est là au début du roman, puisque Lou le découvre en arrivant chez elle.
Ah ouais, la première phrase du livre, c'est d'ailleurs, ça représente une Periophthalmus barbarus, et c'est Lou qui dit, mais maman, c'est quoi cette horreur arrivée chez nous? Et ben, cette horreur arrivée chez nous, c'est aussi l'adolescence.
L'animal étrange qui, en captivité, a une espérance de vie très très court.
Ouais, et Lou, elle trouve que c'est plutôt pas mal.
Et c'est un achat étonnant de la part de la mère, puisqu'on l'a dit, hein, on est dans un milieu très très modeste, ouais, où la mère se prive, fait semblant de ne pas avoir, ouais, faim pour laisser sa fille manger du chocolat. Il
ouais.
Y a aussi dans le conte cette dimension-là, il y a l'inversion, le riche devient pauvre, le pauvre devient riche, c'est aussi
oui,
ce qui est mis à l'œuvre dans
oui.
ce roman.
Et puis pour la mère, j'ai rencontré aussi, j'ai voulu me servir de ça pour Robert, la mère de Lou, c'est que quand elle a pu son enfant, sa fille, elle retire toutes les photos ouais. Des murs, parce qu'elle dit la voir tous les jours et de dire et je peux pas la voir en vrai, tout ça, c'est telle souffrance. Et j'ai rencontré des mères qui effectivement se retrouvent comme ça, à pas avoir la garde de leurs enfants parce qu'elles sont insolvables et tout, et qui cachent les photos derrière des meubles. Des photos de leurs enfants en disant par hasard comme ça tout elle voit et je trouvais ça
pour
très,
que le manque soit pas
très
apparent,
touchant ouais 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 ouais. Et j'avais envie que, qu'elle soit émouvante, la mère de Lou.
Non mais ce qu'il y a de super super émouvant, c'est justement cette petite fille qui n'arrive pas foncièrement à être méchante. Des pluies de... Enfin non, j'allais peut-être trop en dire, mais il y a des histoires de fleurs qui sont mignonnes comme punition, mais c'est pas quelqu'un qui est très très méchant et qui pourrait souhaiter des choses, des actes violents.
Non. Ouais, mais elle se retrouve avec ce truc-là, quoi. Et puis, au bout d'un moment, son pouvoir l'embarrasse. Elle a envie de s'en débarrasser.
Et il y en a un autre dont le pouvoir est embarrassant. C'est notre cher
Tanguy Pastureau. Tanguy, je vais être franc avec vous. Vous sentez terriblement bon et pour être très honnête, ça m'émoustille un peu.
Je sais, Daniel, je le vois à vos poils de barbe qui sont en érection. Si un fakir indien vous croisait maintenant, il viendrait se frotter sans slip contre votre visage en poussant des cris.
Ah.
Malheureusement, nous sommes entre Français, ce qui fait qu'il ne se passera jamais ce genre de choses. Pas étonnant que l'auditeur de France Inter de gauche, ce qui est un pléonasme, en soit encore à fantasmer quand on parle de faire un massage de la prostate à Pierre Arditi. Si je sens si bon, c'est parce que tous les matins, je lave ce corps qui fait triper la gueuse avec du gel douche au Queen Yamang, lequel gel vient d'être lancé par une entreprise bretonne. Alors, pour les malheureux qui ne sont pas de Bretagne, Patrick Bosso, Marina Rollman, Kim Jong-un et deux autres. Le Queen Yamang,
oui,
qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un gâteau breton. Pas compliqué à réaliser puisqu'il se compose de beurre, mais aussi de beurre et de beurre. Vous en déposez un bout devant les locaux d'un magazine féminin avant l'été, la rédaction dénonce une tentative d'attentat. Et comme bien des choses mauvaises pour la santé, c'est délicieux au goût. Ça coule dans la gorge, on sent son estomac gonflé, puis ça tombe dans les fesses. Le moindre organe touché par le Queen Yamang double de volume. C'est à cause d'une bataille de Queen Yamang organisée sur le port de Concarneau que les Bogdanov ont cette tête-là. Ni l'un ni l'autre n'a pu éviter la part qui leur est arrivée droit dans le visage. Quand on en mange, on a les doigts dégoulinants de beurre, ce qui légitime le concept du conjoint, parce qu'on peut se les frotter dans le dos de l'autre en faisant semblant de lui faire un câlin. Ah, d'ailleurs, si en 1610, Henri IV est mort poignardé, c'est que Ravaillac, son assassin, grand consommateur de Queen Yamang, voulait juste s'essuyer les doigts sur lui. Mais il avait oublié que dans la main, il avait encore le couteau qui venait de lui servir à découper le gâteau en quatre, paf, la connerie, il a ripé. Bref, le Queen Yamang, c'est succulent, et ça définit en partie l'identité bretonne, avec la mélancolie et le sable fin qui se glisse dans les fesses. Or, c'est devenu important, les origines. Avant, on s'en foutait, on était vaguement français, ou même corse. Mais maintenant, même les Vosgiens sont fiers de leur région. Julie Gayet, la première fois qu'elle a découvert François Hollande nu, s'est écriée « Ah, mon doudou, t'as une tache de vin sur la hanche ?» L'autre a répondu « Pas du tout, c'est la carte de la Corrèze que je me suis fait tatouer, avant de hurler « Un œuf forever !» Non mais moi, pour me donner de l'épaisseur, je me suis inventé un ancêtre africain, Babacar. Heureusement que je connais la culture africaine, France Gall, tout ça, quoi. Hein, parce que quand à la télé, il y a Magic System, je me mets à pleurer. Tout le monde croit que c'est parce que je pense à mes racines. Mais en fait, je pleure parce que j'entends Magic System. Mais on est tellement déçus de nos vies en général qu'on se sent obligé de se créer un grand roman familial, alors que toutes les origines sont aussi nulles les unes que les autres. En général, il y a une musique autochtone dont on a fait le tour en 2 heures, avec dans chaque pays un instrument qui vous casse la tête, le biniou, la viole de gambe ou la derbouka. Il y a 2-3 vieux qui vous disent qu'avant Internet, on prenait l'apéro les uns chez les autres, un musée de la marine ou de la guerre 39-45, et c'est plié.
Mais Tanguy, en tant que breton, ça veut dire que vous avez envie de sentir le Queen Yamang?
Mais non, Leïla, parce que je refuse qu'on me définisse par mes origines. Ouais. Si je me douche au Queen Yamang, c'est juste parce que c'est plein de beurre, et que si une milf dans le public se jette sur moi, prise d'un désir désir incontrôlable. Elle glissera en tentant de m'attraper et je resterai vierge. Mais sinon, moi je n'en peux plus de cette époque où, omnibulé par les racines, Jean Telet est né à Saint-Lô en Normandie. On va aussi lui demander de s'écraser chaque matin un camembert sur le torse. Daniel, vous êtes né en 48 à France Inter. On vous a découvert roulé dans un lange sur le sol du local de la CGT. C'est pas pour ça qu'on exige de vous que vous vous parfumiez avec l'odeur des aisselles de Jacques Vendroux.
C'est vrai.
Si chacun vient avec sur lui l'odeur du plat de son coin, on n'invitera plus François Bayrou parce qu'il va flairer la poule au pot. Et pire, si on va jusque-là et qu'un Algérien d'origine qui sent la brique à l'œuf croise un identitaire qui sent le jambon, ben ça va être chaud. Alors que la seule chose qui actuellement peut réunir ces hommes est de se rendre compte, alors qu'ils s'approchent l'un de l'autre en hurlant « je vais te crever, charogne », que tous deux mettent Axe pour homme au musc. Une odeur, ça réunit. Moi, je mets l'autre parfum Yves Saint-Laurent. Et ben, quand je croise un type qui a la même, j'ai envie de lui faire l'amour. Parce qu'à ce moment-là, ce type me rappelle moi-même.
Je comprends.
Et que bon, j'ai l'âge que j'ai, mais enfin, je reste métable. Alors, Makibel, la boîte qui fabrique le gel douche au Queen Yamaï, dit que ses ventes ont explosé. Tous les Bretons sentent le Queen Yamaï maintenant. J'aimerais pas être Clara Luciani, la petite chanteuse à franges, parce que cet été, elle fait le festival des vieilles charrues. Elle va se retrouver sur scène devant 4000 Bretons en sueur. Ça va plus sentir le beurre que sur le tournage du dernier tango à Paris en 72. La petite écurie va vomir ses tripes sur le premier rang. Mais personne n'a envie d'un monde où les gens sentent ce qu'ils mangent. Parce que dans ce cas, d'après ses détracteurs, Michael Jackson, il y a 25 ans, aurait pu se parfumer aux prépuces d'enfants. Et là, olfactivement, ce n'est pas possible. Bref, on peut être breton et sentir comme un Lorrain, un Argentin ou Michel Houellebecq si on se décide à se rouler dans la poussière. Notre odeur ne nous définit pas. Et moi, le Queen Yamaï, je le préfère dans mon ventre que sous mes bras. Merci.
D'odeur, il en est aussi question dans Gare à Loup, Jean Telet, ce roman publié chez Julliard, parce que Loup est un peu distante, on va dire, avec la douche.
Oui, ben oui, oui,
c'est une fille,
ouais,
pourtant,
ouais,
généralement, on dit ça des garçons.
Les chefs de guerre, je trouve que ça sent le fauve un petit peu dans sa chambre, et elle dit, mais je fais rien. Donc je transpire pas, donc je vois pas pourquoi je voudrais me laver. Et puis laver les cheveux, c'est long, il faut les brosser. Et
c'est l'ado, quoi.
Et voilà, c'est un vrai ado avec tous les trucs, l'appareil dentaire, tout ça. Et assez vite, les trois chefs de guerre regrettent le bon temps de la bombe atomique, qui était autrement plus facile à manier que cette gamine à appareil dentaire absolument ingérable.
Parlons de ces trois chefs de guerre, justement. Alors, ils se répartissent les différents domaines de la guerre.
Oui, il y a Armand Mangebeuf de Boisjoli, qui est le chef des guerres au sol,
génial.
Paul Écaille, le chef des guerres dans l'eau, et Attila Nicole, le chef des guerres en l'air.
On a une préférence pardon, pour Attila, quand même, dans le
oui,
roman.
Et, ouais, oui, et Attila, il a une particularité, c'est qu'à aucun moment, il s'aperçoit que c'est une petite fille dont il s'occupe. Il l'appelle chère arme, et il ne la prend que pour une arme, l'arme totale, et puis il lui donne des cours pour lui apprendre l'histoire des armes, du premier homme préhistorique a fermé sa main pour en faire un point, pour en donner un coup dans la figure de quelqu'un, jusqu'à elle, qui est l'arme absolue.
Absolue. Et elle est tournée en bourrique.
Quand il lui apprend des poèmes, il fait apprendre des poèmes, par exemple, Le dormeur du Val de Rimbaud. Et les seules questions qu'il lui pose, c'est en admettant que Le dormeur du Val était un Français et que ça s'est passé en 1870, quelle est l'arme qui l'a tué ? Et tout de suite, elle répond. C'était un fusil de Dresse avec canoncier, machin comme ça, opposé au fusil chasse-pot des Français et tout. Enfin voilà, il est branché que armes.
Il y a des clins d'œil, on parlait tout à l'heure de Louis Aragon qui fait renvoi à votre père qui a réparé au moins la chaise sur laquelle il travaillait. On a parlé de Boris Vian avec cette dimension fantastique qui renvoie aussi au magasin des suicides. Mais là, vous venez d'évoquer Rimbaud. Forcément, Rimbaud, c'est aussi une partie de votre... De votre liste de livres qui vous ont précédé.
Ah ouais. Bah oui, mais il y a trois poètes, Villon, Rimbaud, Verlaine. C'est extraordinaire. Et j'ai écrit des livres sur les trois.
Ouais, ouais.
Il y en a un autre qui est très grand aussi, c'est Baudelaire. Mais le mec Baudelaire, je peux pas le saquer.
Oui, j'ai lu ça, vous l'aimiez pas.
C'est un connard qui a toujours vécu au crochet de tout le monde, qui a écrit que des conneries sur les Belges, sur les femmes et tout. Et effectivement, que les fleurs du mal, c'est sans doute avec Une saison en enfer de Rimbaud, l'un des deux recueils de poésie totale. Mais je me me vois pas raconter la vie de ce con.
Qui est mort
de façon marrante, parce qu'un jour il était avec sa mère dans l'église de Namur, et à un moment il glisse, et en glissant il tombe et il dit crénom, et il s'est retrouvé bloqué sur ce mot, et il a plus jamais dit un autre mot, ce qui fait qu'il s'est retrouvé paralysé, et puis
il avait la syphilis, hein,
ouais, et puis il s'est retrouvé dans un hôpital religieux et tout, et il était devant le tableau de la Vierge et avec sa chaise longue, puis à faire des crénoms. Au bout d'un moment, il a fallu le virer parce que les bonnes sœurs supportaient pas. Et ce type qui a été un tel inventeur de langage, terminé sur un mot aussi con.
Mais c'est une belle histoire à raconter, ça.
Oui,
mais l'histoire d'un con.
Mais il me plaît pas.
Non,
moi, j'ai besoin
ça peut être
d'aimer,
un angle.
D'aimer
ça peut...
mes personnages.
Vraiment. Et vous les aimez toujours même après?
Ah oui, ouais, j'ai besoin de
les
personnages, ouais. Et Baudelaire, il me plaît pas.
Bon, eh ben, c'est tant pis pour lui, mais en tout cas, nous, Garalou, elle nous plaît.
Vous parlez d'un con qui écrit n'importe quoi, on va en retrouver un tout à l'heure, il s'appelle Frédéric Segriston.
J'étais tellement sûr de la transition.
Ah, quand je peux faire plaisir,
c'est gratuit,
c'est Gallipoli, bande originale sur France Inter, notre invité Jean Tellet pour Garalou. Dans la bande originale, sur France Inter.
Avant d'entendre Frédéric Segriston, qui a été annoncé avec grand renfort
avec
de. Oui, c'est ça.
Avec gentillesse et encouragement.
Gare au con, donc. Nous, on s'intéresse à Garalou, avec toujours Jean Tellet, notre invité dans la bande originale. Ce roman publié chez Julliard. Un nouveau roman avec une adolescente en guise d'héroïne. Donc, une façon aussi d'ouvrir à tous les publics, peut-être.
Oui. J'aimerais bien que ce livre plaise aussi aux ados. Ouais. Ouais, comme je disais tout à l'heure.
Comme Boris Vian.
Mais voilà. Ouais.
Que le lectorat, comme ça, s'agrandisse.
Ouais, c'est touchant. Et quand je vais dans les trucs de dédicace et que je vois soit un petit mec ou une petite gonzesse tout jeune, avec un livre, je sais lequel c'est. C'est toujours le Magasin des Suicides.
Oui, oui. Et bien justement, là, c'est dans la veine du Magasin des Suicides. Si vous avez aimé le Magasin des Suicides, vous avez la possibilité de continuer à creuser avec Jean Tellet ce sillon du conte fantastique. On a envie d'aller s'asseoir au bar des sanglots. D'aller commander un petit café de nostalgie avec Monsieur Sodad et de se laisser emporter dans l'histoire de cette petite fille.
Pourquoi pas en écoutant aussi un salopard annoncé depuis tout à l'heure. C'est le moment de Frédéric Segriston.
Ah oui. Voilà. Parce que la bienveillance, c'est important. Alors cette année, figurez-vous que Batman va fêter ses 80 ans.
Sérieux ?
Eh oui, quand on pense que Gérard Collomb a 10 ans de moins. Bah, mais clairement, on voit les bienfaits du sport. Hein. Alors pour l'occasion, le Bat-Signal va illuminer le ciel de Paris et de plein d'autres villes du monde. Alors je le dis pour les deux du fond qui pensent que Batman c'est un plat indien, le Bat-Signal c'est ce projecteur qui envoie dans le ciel le logo de Batman quand on a besoin de lui.
Ah.
Alors évidemment vous allez me dire, mais pourquoi Batman il a pas opté pour un tatou ou même un téléphone portable? Il y a une énormément de forfaits téléphoniques avec SMS illimités. Écoutez, c'est Batman, il est milliardaire, quand on a besoin de lui, il a envie qu'on le sache. Hein, la Batmobile, on va pas se mentir, c'est quand même une grosse voiture de kéké. Hein, les ailes de chauve-souris sur une bagnole, ça arrive quand même en dernier dans les conseils de sécurité routière. Il y a un niveau de tuning derrière pour arriver à ce résultat. N'empêche, vous vous rendez compte, la ville de Paris va participer à l'anniversaire d'un personnage de bande dessinée. C'est énorme. La Tour Eiffel, elle s'illumine aujourd'hui pour un oui ou pour un non. Tout le monde peut la privatiser. Un jour, c'est une victoire des Bleus. Un autre, un attentat au Turkestan. Là, c'est pour l'anniversaire de Batman. Demain, ça va être quoi? La communion de Timéo? La bar mitzvah de Benjamin? Alors, en tant que fan de comics, ça devrait me réjouir. Parce que Batman, pour moi, c'est comme plus tard que pour Leila ou Samantha Fox pour Daniel Morin. C'est une légende. Et c'est fou parce que depuis quelques années, les comics ont envahi l'espace public, c'est devenu complètement mainstream. Ça fait des cartons box-office, on en fait des séries, il y a des colloques sur le sujet, des philosophes ont même écrit des livres là-dessus. J'ai lu une interview d'Al Pacino où il dit sérieusement qu'il rêverait de tourner dans un Marvel. Il y a déjà eu Robert Redford, Glenn Close, Michael Douglas, Kate Blanchett. N'en jetez plus, à cette vitesse-là, les frères Dardenne vont vouloir réaliser le prochain film Marvel avec Mathieu Amalric et Isabelle Huppert. Mais ce qu'il faut pas oublier, et moi ça je l'ai pas oublié, c'est qu'il y a quelques années, quand tu t'affichais comme passionné par les comics, on te regardait comme on regarderait un footballeur dans une bibliothèque. Hein. On te prenait clairement pour un con. Essayer de draguer avec un Strange ou un Nova à la main. Hein, ces magazines, à l'époque, c'était des préservatifs qui se lisaient. Moi, au collège, quand on faisait les équipes de foot, j'étais toujours celui qu'on choisissait en dernier. Et en plus, c'est le prof qui me disait où je devais aller. Hein, ceux qui m'avaient dans leur équipe, ils réclamaient toujours 2 buts d'avance en compensation. En plus, je cumulais les handicaps. Génération Mitterrand, enfant du divorce. Moi, les comics, le club Dorothée, les jeux vidéo, c'était mon refuge, c'était mon identité à moi, c'était mon truc à moi. Moi, ces personnages, je les connais. J'ai grandi avec, je me contente pas d'aimer Batman et Robin. Je sais combien il y a eu de Robin. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown, Damian Wayne. Il y a aussi eu Carrie Kelly dans Dark Knight, mais je veux pas être relou là-dessus.
Non, pas la
même. Mais quand on me dit j'adore Captain America, je réponds toujours, lequel? Le blanc ou le noir? Moi, je me contente pas d'aimer ça comme ça, tu vois. Les choses sont pas aussi simples. C'est pas parce que t'as lu Science et Vie une fois dans ta vie que t'es astrophysicien. C'est ma spécialité. Alors quand je vois les gens s'approprier un univers qu'ils viennent juste de découvrir, s'improviser gardien du temple, je deviens fou. Même mon fils, moi je le supporte plus. Des fois, avec ses copains dans la chambre, je les entends jouer à Dragon Ball et j'entends les gamins faire « Ah, moi je vais faire Freezer !» Là, mon sang ne fait qu'un tout. Je rentre dans la chambre, je déboule, je dis « Furiza, Furiza Samada !» On dit pas Freezer. Akira Toriyama, il a voulu qu'on l'appelle Furiza, pas Freezer. Freezer, c'est un congélo dans lequel tu mets les surgelés. Et en plus, Goku, le nom Saiyan de Goku, c'est pas carotte, c'est Kakaroto. Kakaroto. Alors évidemment, je pars, je claque la porte, ils se mettent un peu à pleurer. Je dis oh, ton papa, il est méchant, je reviendrai plus chez toi. Mais c'est comme ça, des fois, savoir apprendre, c'est savoir souffrir. Alors oui, d'un côté, je me réjouis de la démocratisation de mes passions, mais il y a quand même de la récupération derrière. Tu sens le filon commercial à exploiter. Et pour tout vous dire, en fait, je me sens comme François Bayrou.
Non.
Si. Le mec, pendant 4 présidentielles, il veut se faire élire en dépassant le clivage droite-gauche. Tout le monde se fout de sa gueule. Tiens, Macron, l'opportuniste, il arrive, il dit la même chose, il est élu. Et ça devient classe. Et vient peut-être de là, finalement, mon aigreur, c'est que je suis plus le seul. Et ce qui a fait que j'étais unique pendant toutes ces années, c'est désormais partagé par le plus grand nombre. Donc j'ai envie de dire, youpi.
Oh, bravo, voici Gris.
Un homme de combat.
Ah, ça c'est sûr, des grands combats. Attention les enfants, attention les lecteurs, attention les grands, les petits gars. Ralou, un roman qui, je crois, va être adapté, Jean Tellet.
Oui, ça va déjà être adapté en bande dessinée, puis peut-être...
Comédie musicale.
Des trucs comme ça, oui, en général, oui. C'est adapté au cinéma, au théâtre, en BD, même en opéra. Il y a eu Charlie Neuf à l'Opéra de Metz. Je trouve que c'est quand même... pas mal.
On souhaite à Garalou autant de déclinaisons dans tous les arts. Merci Jean Tellet d'avoir été avec nous.
Merci vraiment.
On rappelle Garalou, édition Julliard, le dernier né de Jean Tellet, d'une histoire qui part d'un petit grief avec la SNCF. Je trouve ça pas mal comme petit élément, voilà, pour mettre en scène.
Ah, service public.
Et ouais, finalement.
Il va y en avoir des livres.
Vive le train. Vive le train. Tout est possible avec la SNCF, vraisemblablement, Daniel.
Oui, je suis désolé. Je suis confus pour beaucoup de raisons. Désolé pour Jean Tellet. J'ai eu la petite fille qui est en couverture de votre livre et vu le succès de votre bouquin, elle voudrait qu'en plus du permis de conduire, vous lui offriez la bagnole qui va avec. Elle vous force pas, elle précise juste, c'est ça le procès. Bon, désolé pour les fans de Jean Tellet qui ont découvert que leur idole aimait avant tout petit 1, ne pas parler aux gens. Petit 2, souhaiter du mal au contrôleur SNCF. Oh, c'est un style de vie. Hein. Et désolé en fait pour nos auditeurs un peu cons qui, sur les conseils de Marina Rollman et comme quelquefois le titre certains magazines, aimeraient tromper leur conjoint avec une poutre. C'est vrai, c'est un peu con, même si c'est vrai, il y a quand même de la poutre séduisante.
Merci, merci à tous autour de la table, camarades de la bande originale, camarades Gentelet, ouais. Merci également. Demain, avec nous, ce sera Jacques Attali, on parlera de l'alimentation, de l'histoire de l'alimentation, et c'est passionnant.
Tout de suite, carnet de campagne avec Philippe Bertrand. Bonne journée à l'écoute de France Inter.